VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 17h à Lagos et au Nigeria, le candidat de l'opposition Muhammadu Buhari est ce soir proche d'une victoire historique à l'élection présidentielle. Il devance en effet le président sortant après la proclamation des résultats dans 34 des 36 États du pays. Félicien Passy Zembrou.
Muhammadu Buhari a recueilli, selon les derniers décomptes, plus de 14 millions de votes. Son adversaire, Goodluck Jonathan, arrive à distance derrière lui avec 11 millions de suffrages. Le candidat de l'opposition a devancé le chef de l'État sortant, Goodluck Jonathan, à Lagos, la capitale économique nigériane et ville la plus peuplée du pays, selon la commission électorale indépendante. Monsieur Buhari, du Congrès progressiste APC, a remporté 792 460 voix contre 632 327 pour Monsieur Jonathan, candidat du Parti démocratique populaire PDP. Lagos, qui compte environ 20 millions d'habitants, est considéré comme un état clé dans ce scrutin. Le président sortant, Goodluck Jonathan, a réalisé un carton plein dans son fief de l'état de Bayelsa dans le sud, remportant plus de 98% des suffrages à l'élection présidentielle. Muhammadu Buhari, ex-général à la retraite, âgé de 72 ans, avait déjà dirigé le Nigeria il y a une trentaine d'années après un coup d'État. Converti à la démocratie, il se positionne comme l'alternative pour nettoyer le Nigeria de la corruption devenue endémique dans le pays et surtout de faire face à l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram.
Et le principal parti d'opposition a déjà revendiqué la victoire de son candidat, Muhammadu Buhari. Le porte-parole du Congrès progressiste APC, Lai Mohamed, cité par l'AFP, a crié victoire en proclamant « C'est la première fois que l'opposition chasse un gouvernement par la voie des urnes dans l'histoire du Nigeria ». Notons toutefois que les résultats officiels définitifs ne sont pas encore connus. Au Mali, le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de suspendre ses déplacements dans le nord du pays. Cette suspension intervient au lendemain de la mort de l'un de ses employés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Kampala, les funérailles de Joan Kagezi auront lieu demain. La procureure en charge du procès des attentats de Kampala de 2010 a été abattue lundi soir. Nicolas Pinault.
Les assassins de Joan Kagezi ne lui ont laissé aucune chance. Des individus à moto ont suivi lundi soir la directrice adjointe du ministère public ougandais et l'ont abattue froidement dans son véhicule. Ses trois enfants qui étaient à bord n'ont pas été blessés. C'est ce qu'a expliqué le chef de la police ougandaise, Kale Kayihura, dans un communiqué. Madame Kagezi était au cœur du procès de l'année dans la capitale ougandaise, celui de 13 hommes accusés d'avoir participé aux attentats de 2010 à Kampala, qui avaient fait 76 morts. Ces attaques avaient été à l'époque revendiquées par le groupe somalien Shabab. Ce procès a été suspendu ce mardi. Younoussou Kassirivou, un avocat de la défense, a indiqué que ses confrères et lui s'entretiendraient avec le juge ce mardi pour décider de la suite du procès. Les accusés, 7 Kenyans, 5 Ougandais et un Tanzanien, sont tous inculpés de nombreux chefs, notamment actes de terrorisme et meurtres. Tous, sauf un, sont également inculpés pour appartenance à une organisation terroriste. Souvenez-vous, le 11 juillet 2010 à Kampala, deux kamikazes avaient déclenché leur ceinture d'explosifs dans deux établissements qui retransmettaient la finale de la Coupe du monde de football.
Et on l'a dit, Barack Obama va se rendre au Kenya au mois de juillet prochain. Ce sera le premier voyage en tant que président sur la terre de ses ancêtres. Le président américain Barack Obama se rendra donc dans son pays, le pays natal de son père, pour sa première visite dans ce pays depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. Selon l'exécutif américain, M. Obama participera notamment au sommet mondial de l'entrepreneuriat et aura une série d'entretiens bilatéraux. Il s'agira du 4e voyage en Afrique subsaharienne depuis sa présidence. Nicolas Pinault a joint pour une analyse l'ancien ambassadeur des États-Unis à Nairobi, Marc Bellamy. L'ancien diplomate explique à VOA Afrique que cette visite était attendue.
Le président avait toujours, je crois, l'intention de visiter le Kenya avant la fin de son administration. Il a fallu choisir un bon moment. Ils ont choisi le moment, c'est le moment de ce sommet. Et je crois que ce sera l'occasion de faire plusieurs choses, de réaffirmer l'importance des relations bilatérales, de célébrer le dynamisme économique au Kenya, qui est une histoire assez intéressante, de parler des questions de sécurité sans doute, et on peut espérer aussi de relever quelques sujets un peu plus sensibles autour des questions de droits de l'homme.
Le timing de cette annonce n'est pas anodin puisqu'il intervient après l'abandon des poursuites par la Cour pénale internationale contre le président Uhuru Kenyatta.
Je crois que cette question, ce problème, si vous voulez, est maintenant derrière le président Kenyatta. Je ne crois pas que ce sujet sera traité au cours de sa visite. Il faut rappeler aussi que la poursuite de son vice-président est toujours en cours. Donc cette question d'impunité et des obligations du Kenya devant le cour sont toujours là.
L'ancien ambassadeur des États-Unis à Nairobi, Mark Bellamy, joint à Washington. Le Yémen sous les feux de la guerre, la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite intensifie ses bombardements aériens. La capitale Sanaa a subi avant l'aube aujourd'hui les raids les plus violents depuis le début de cette offensive contre les rebelles Houthis, débutée il y a 6 jours. Le pays semble être au bord de l'effondrement total, estime l'ONU. Le point, Michel Joseph.
C'était horrible. De fortes explosions ont résonné toute la nuit, témoigne un habitant de Sanaa, cité par l'AFP. Ces bombardements d'une extrême violence se sont concentrés sur des positions de la garde républicaine. Ce corps armé, resté fidèle à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, est aujourd'hui allié aux Houthis, les rebelles chiites pro-iraniens qui contrôlent de vastes régions du pays. Téhéran, au cœur des tensions diplomatiques nées de ce conflit, alors que Riyad accuse l'Iran de soutenir l'insurrection chiite. Les deux pays qui se renvoient la balle et se reprochent mutuellement de déstabiliser le Yémen. Le feu de la guerre poussera toute la région à jouer avec le feu. Les opérations militaires doivent s'arrêter immédiatement, estime le ministère iranien des Affaires étrangères. En attendant, les victimes s'accumulent. L'ONU compte des dizaines de civils tués au cours des 4 derniers jours.
L'ONU a exhorté ce mardi la communauté internationale à accroître fortement son aide humanitaire aux Syriens, car après 4 ans de guerre, 4 sur 5 d'entre eux vivent dans la pauvreté et la misère. Les mots même de son secrétaire général Ban Ki-moon, c'est la crise humanitaire la plus grave de nos temps, a-t-il encore rappelé en ouvrant la 3e conférence des donateurs sur la Syrie à Koweït. L'ONU a fixé à 8,4 milliards de dollars en un an l'aide financière nécessaire pour venir en aide aux plus de 10 millions de réfugiés ou déplacés, soit après de la moitié des quelques 23 millions d'habitants que compte la Syrie. Un record mondial inégalé depuis 20 ans selon l'ONU. L'Union européenne a promis aujourd'hui de doubler son aide à 1,1 milliard d'euros en 2015 contre 550 millions en 2014 d'après l'AFP. Le conflit syrien qui entame sa 5e année a également fait plus de 215 000 morts depuis mars 2011. En Turquie, des hommes armés ont pris en otage dans un tribunal d'Istanbul le procureur en charge d'une enquête ouverte après la mort d'un jeune homme blessé par la police lors de manifestations antigouvernementales en 2013. L'AFP signale que des coups de feu ont été entendus lors de la prise d'otage. Certains médias l'ont attribué à un groupe d'extrême gauche turc. En Irak, les forces de sécurité ont repris le siège du conseil provincial à Tikrit, près d'un mois après le lancement de leur offensive sur cette ville du nord tenue par le groupe État islamique. Il s'agit, d'après l'AFP, de la percée la plus significative depuis le lancement, le 2 mars, de l'offensive la plus importante opération contre les djihadistes depuis qu'ils se sont emparés en juin dernier de vastes pans du territoire, notamment dans le nord de l'Irak.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et du sport pour terminer, le Bénin n'a plus de fédération de football pour une raison bien simple. Le gouvernement a retiré l'agrément à la fédération béninoise de football. On joue ce mardi en Europe, toujours dans le cadre du football. Le vainqueur du match Israël-Belgique va se hisser à la tête du groupe B des qualifications pour l'Euro 2016, coup d'envoi tout à l'heure à Jérusalem. Un match amical très critiqué à la suite des mauvais résultats des Oranje depuis sa prise de fonction l'été passé. Le sélectionneur des Pays-Bas, Gus Hiddink, s'attend à rencontrer des Espagnols revanchards. C'est ce soir à Amsterdam. Après le 5-1 infligé à la Roja lors du dernier mondial, l'Italie et l'Angleterre s'affrontent, eux, pour la 4e fois en moins de 3 ans. Ce sera tout à l'heure un match amical à Turin. NBA, championnat de basketball nord-américain. Portland a validé son ticket pour les playoffs face au Phoenix Suns, 109 à 86. Memphis a retrouvé du mordant face à Sacramento, 97 à 83. De mars, DeRozan, l'ailier des Raptors de Toronto, a réussi la meilleure soirée de sa carrière avec 42 points. Et la franchise canadienne domine Houston, 99 à 96. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce rendez-vous de l'information. Prochain rendez-vous dans moins d'une heure. Et ce sera avec Claire Morin-Gibou.
Soyez au cœur de l'info.